Le Français a tendance à appeler gruyère un fromage qu'il a en fait déclassé. C'est vrai que ça gêne beaucoup notre gruyère authentique.
Puisque le gruyère est né en Suisse, c'est la vallée de la gruyère.
Pourtant, l'emmental sait aussi se faire beau et bon, le roi des gruyères.
Qui est un fromage suisse, l'emmental, possède lui beaucoup de trous de la taille d'une noix.
Et puis alors, c'est par opposition au fromage à pâte pressée non cuite.
Le succès du cheddar n'étonne pas les Britanniques.
Dans les pâtes, les sandwichs, dans les plats, les gens ajoutent souvent du cheddar.
En bloc, râpé, en tranche ou même en crème, il est vendu sous toutes les formes.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster dans la famille des fromages râpés qu'on achète au supermarché. Je demande de l'emmental. Du gruyère. Ah bah non, et pourquoi pas du cheddar pendant qu'on y est, on n'y comprend rien. Comment faut-il nommer tous ces fromages râpés? Quelle est la différence entre ces pâtes que l'on confond et que l'on fait fondre? Et que dire de ce fameux cheddar qui commence à tailler des croupières à nos meules françaises? Fromage râpé, une question gratinée, c'est le débat qu'on lance avec notre invité du jour, Pierre Coulon. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez fondé, alors on vous présente plus, hein, vous êtes intervenu régulièrement à ce micro pour des questions fromagères. Hein. Il y avait le yaourt,
la raclette,
le lait, absolument. Vous avez fondé la Laiterie de Paris dans le quartier de la Goutte d'Or, dans la capitale. Vous êtes crémier fromager, vous êtes même formateur et vous venez de signer vraiment un livre somme sur le fromage, un livre qu'il faut avoir à la maison pour tout comprendre. Je l'ai, il est assez lourd. Hein.
Oui,
voilà,
338 pages.
Je le soulève, non, j'exagère. 338 pages quand même.
Mon bordel fromager, ouais.
Le bon savoir du fromage chez First Edition, qui a d'ailleurs remporté un titre prestigieux la semaine dernière.
Oui, le prix au Salon du Livre Gourmand de Périgueux.
Absolument, le grand prix du Festival du Livre Gourmand de Périgueux, où nous avions la chance de dresser le couvert l'an dernier, et vous avez gagné le grand prix cette année. Toutes nos félicitations, mais c'est amplement mérité. Dans la bande dont on va déguster, je demande aujourd'hui, Elvira Masson et notre chroniqueur Antoine Gervais. Belle. Bonjour les copains.
Bonjour à toutes et tous.
Bonjour, bonjour.
Elvira.
Moi je vous parle de la version américaine du croque-monsieur.
Ah, j'ai ma petite idée. Ça commencerait pas par un G?
Si.
Ça se poursuit par un C?
Et ça file et ça fond.
Et ça file et ça fond, absolument. Antoine,
je vous épargnerai ma chronique en rap, mais je vous ai...
rap, j'y suis, rap à fromage.
Voilà, on l'a. Mais je vous rapporte les précieux conseils du nouveau meilleur sommelier de France et quelques pistes de ma part pour accorder nos fameux fromages de montagne, pas toujours râpés.
Le nouveau meilleur sommelier de France qui va nous délivrer ses conseils. Ah oui, incroyable, hein, ça c'est une très bonne nouvelle dans le milieu du vin. N'hésitez pas à réagir à la maison sur notre mail. Comment vous utilisez ces fromages? Comment vous les appelez? Savez-vous comment ils sont fabriqués? On va déguster à radiofrance.com. Il y a aussi le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. On va déguster sur les ondes, mais aussi on va déguster en ligne pour tous les contenus de l'émission, pour les recettes de Pierre Coulon, car il y en a au fromage. Eh bien c'est franceinter.fr à la page 11. On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant de cuisiner nos fromages râpés, grignotons un peu de végétal avec une papesse en la matière. Vous l'avez rencontrée, Elvira Masson.
Oui. La papesse, c'est Alice Waters, chef fondatrice du mythique restaurant chez Panis à Berkeley en Californie, qui depuis plus de 50 ans a contribué à faire changer la manière dont on considère l'alimentation aux États-Unis en défendant inlassablement une restauration responsable qui soutient les paysans. L'amour d'Alice Waters pour le végétal transparaît dans chacune de ses prises de position et chacun de ses livres, dont ce foisonnant tome 2 de l'art de la cuisine simple, une coédition Actes Sud et Kéribus, consacrée à la cuisine du potager, un éloge absolument splendide et assez lourd, hein, il est encore un peu plus copieux que votre livre, Pierre Coulon.
Je vois ça. Ah ouais.
Un éloge au sol vivant, aux tiges, aux racines, aux feuilles, truffé de conseils pour se lancer dans le potager et bien sûr de recettes classées par saison qu'on a tout envie de faire, de présentation de ses légumes préférés, des salades pour lesquelles elle voue un culte et des assaisonnements qui sont sa marque de fabrique. Elle était de passage à Paris, comme vous l'avez dit François-Régis, j'en ai profité pour lui shipper un peu ses conseils de préparation pour une vinaigrette parfaite.
I want all the garlic to go down there.
And you're using your fingertips for that?
Yep. Well, it's just easier to get all the garlic from the side of the mortar into the vinegar, because that is the point. So you want this to be tamed by the vinegar. I use a little tiny whisk that's probably 4 inches high. And it is so perfect for making vinaigrette, but it's also great for making mayonnaise. Aioli. I think aioli is my favorite sauce. Et voilà.
Et voilà.
Et voilà. J'étais donc en cuisine avec Alice Waters, qui m'a préparé une simple salade d'hiver avec cette vinaigrette également toute simple, qui irait très bien aussi avec sa salade de choux rouges aux dattes et kumquats. Il y a des recettes absolument démentes dans le livre. Je récapitule un tout petit peu comme on n'a pas traduit. Pour faire sa vinaigrette, qu'elle dit être un peu à la française, elle écrase une gousse d'ail. En fonction de la saison, elle met plus ou moins d'ail. Elle a, honnêtement, c'est très compliqué de lui extorquer des proportions exactes. Ail écrasé au mortier, très important. Sel, vinaigre de vin rouge. Elle est intraitable sur le vinaigre de vin rouge. Puis, on laisse reposer le temps du repas. Et ce n'est qu'après ce temps de repas qu'on émulsionne avec de l'huile d'olive au fouet. C'était ça le tiny whisk qu'on entendait. Et pour faire cette vinaigrette, nous étions accueillis chez Rhizome, un restaurant qui est situé dans le 11e arrondissement, un restaurant ruffé d'herbe, un restaurant engagé et vertueux, un lieu où des chefs se succèdent sous forme de résidence pour cuisiner local, de saison, en circuit court, et zéro déchet, zéro gaspille. Une adresse très Alice Waters, donc.
Et vous nous rappelez les références de son livre qui est traduit en français.
Oui. L'art de la cuisine simple, volume 2, du jardin à l'assiette, aux éditions Actes Sud et Kéribus.
On l'avait reçu pour le premier tome.
En 2018.
Alice Waters, et on a mis, bien entendu, sur le site de l'émission, le lien pour réécouter cette émission qui avait d'ailleurs eu beaucoup de succès. Moi, j'utilise, parce que je fais aussi la vinaigrette de ma grand-mère corse avec, effectivement, ce petit morceau d'ail que j'écrase avec le dos d'une cuillère. Ça marche aussi bien.
Je pense qu'elle en met plus que vous.
Ah, elle en met plus, d'accord.
Et elle le pile vraiment jusqu'à ce que ce soit une pâte, quoi. Enfin, de l'ail complètement en purée.
Ça fait sortir le jus et ensuite, évidemment, du sel. Et puis, on fait fondre avec du vinaigre, mais c'est
et
une excellente...
Et ça va avec toutes les salades.
Un excellent dressing signé. Alice Waters, un grand merci, la papesse du Farm to Table aux États-Unis. Je voudrais vous annoncer la der des der du Salon des Coques d'Or, un salon qui a mis pendant 27 ans sur le devant de la scène parisienne d'excellents artisans en provenance de tous les terroirs de France et dont la dernière édition se tient ce week-end à Paris. Les Coques d'Or, c'est une émanation du Guide des Gourmands qui a été créé et animé depuis 35 ans par Elisabeth de Merville, une journaliste gastronomique extrêmement rigoureuse. Ce Guide des Gourmands, c'était la bible d'adresse qui recensait dans toute la France les meilleurs produits du terroir. Plusieurs générations de chefs et de gourmets se sont plongés dans ce guide très fourni pour sourcer leur vin, leur moutarde, leur conserve, leur chocolat, les huîtres, le pain. Elisabeth de Merville et ses équipes ont décerné tout au long de ces années des prix à l'élite de ces artisans de bouche. C'était ces fameux coqs d'or qui ensuite se retrouvaient à Paris pour tenir salon. Toute aventure a une fin et le Salon des Coqs d'Or célèbre ce week-end sa dernière édition. Ça a commencé hier samedi, ça se tient jusqu'à ce soir 18h. On est à l'hôtel Pullman Paris-Bercy dans le 12e arrondissement de Paris. Si vous avez l'occasion d'y aller cet après-midi, vous y trouverez notamment les charcuteries de la maison Conquet à l'Aïeul, les huiles d'olive de l'Olibo dans l'Aude, la bière alsacienne de la brasserie Perle ou la Boutargue de la maison Mémy à Martigues, il y a aussi les volailles de Bresse de la maison de Miral. Bref, il y a une quarantaine de... Ça finit en apothéose avec une quarantaine de producteurs français. On embrasse Elisabeth de Merville. Je sais que vous êtes touchée, Elvira.
Bah oui, je suis
très touchée. Elle a beaucoup compté dans votre carrière.
Elle a beaucoup compté, elle m'a vraiment formée, elle m'a appris beaucoup de choses. Ma sensibilité aux produits vient d'elle. J'ai passé 2 ans à ses côtés et j'œuvrais notamment au Guide des Gourmands et au Salon des Coques d'Or. Et il faut peut-être quand même rappeler qu'elle a été vraiment, vraiment à l'avant-garde. C'est que quand elle a commencé à s'intéresser à la traçabilité, au sourcing, au circuit court, à l'artisanat de bouche, peu de personnes s'y intéressaient. Elle était très en avance et on lui doit beaucoup.
Et très intègre. Précisons qu'elle a toujours été indépendante de toute marque. On sait que c'est pas évident dans ce métier.
Oui, elle avait une équipe
Antoine
formidable. J'ai même connu Michel Crignoux, qui était son associé, qui nous a quittés malheureusement. Et bien avant que des grandes stars, on peut dire aujourd'hui médiatiques, parlent de produits, tu as raison, Elvira, elle était devant. Caractère de cochon, faut préciser.
Ouais,
mais on l'aime pour ça.
On l'a reçu plusieurs fois à ce micro, notamment pour une émission sur Pierre Desproges, car c'était la grande amie de Pierre Desproges, elle a dirigé aussi Cuisine et Vins de France pendant des années, Elisabeth de Merville. On l'embrasse. Et puis un autre rendez-vous que je voudrais vous signaler, c'est la conférence interactive et engagée qu'animera l'ami Mathieu Vidard ce mardi, le 29 novembre à 20h, dans le studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique. Manger autrement, mais comment? C'est le débat crucial, mais aussi très complexe, qu'il lancera avec ses invités, alors experts en alimentation, agricultrice, il y aura aussi la chef cuisinière Chloé Charles et ses super stratégies anti-gaspi. Et Mathieu Vidard sera accompagné tout au long de la soirée par Guillaume Meurice. Une soirée qui s'annonce passionnante, à vivre au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, mais aussi en direct dans plus de 150 salles de cinéma indépendantes en France. Voilà, toutes les infos pour s'inscrire, c'est sur franceinter.fr à la page On va déguster. Pour faire gratiner cette émission en direct, Laurent Thomas, Laurent Baudouin, Fabrice Rivaud, on se retrouve pour râper et cuisiner les mentales, le gruyère, le cheddar, juste après Mon amour de Stromae, choisi par Djoubaka. Bon appétit sur France Inter.
Y a d'abord une Natacha, mais avant il y avait Nathalie, puis tout de suite après il y a eu Laura, et ensuite il y a eu Aurélie, évidemment il y a eu Emma, mon Emmanuel et ma Sophie, et bien sûr il y a eu Eva et Valérie, mais mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras, plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours, pour toujours. Non, c'est pas ce que tu crois, je sais, ça paraît bizarre. Non, c'est pas ma faute à moi, mais sans doute la faute au hasard. Pourquoi tu t'en vas? C'était la dernière fois, c'était juste un coup d'un soir. Ça comptait pas, de toute façon je sais qu'au fond de toi tu les aimes bien les connards.
Mon amour, oui, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.
Oui, pour toujours. Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi? Vous le faites combien de fois par mois? Et puis mes slips sont dans quelle armoire?
Mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mais mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.
Mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste? Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce que j'ai fait au juste. Pourquoi, pourquoi la vie est si injuste? Dis-moi, dis-moi.
Partons d'un sachet de fromage râpé, comme on en achète environ 150 000 tonnes par an et en France, du fromage râpé. Quand j'étais petit, ma grand-mère m'envoyait à la supérette en bas de chez elle pour aller acheter du, entre guillemets, râpé. Mais ce fromage, on l'appelle aussi indifféremment Emmental ou Gruyère. Vous, dans votre laiterie de Paris, dans le quartier de la Goutte d'Or, Pierre Coulon, rue des Poissonniers, on est dans le 18e arrondissement de la capitale, ils vous demandent quel fromage, quand ils veulent du fromage râpé, vos clients?
C'est un peu générationnel. On va dire que la plupart des gens nous demandent du Gruyère et les gens plus jeunes nous demandent de l'Emmental. C'est un mot qui est arrivé plus tard, hein, Emmental.
Donc on va essayer de comprendre la différence entre les deux, mais aidez-nous à y voir plus clair. Le sachet que j'ai par exemple là, sous les yeux, sous le micro, est-ce de l'Emmental ou du Gruyère?
Alors, c'est de l'emmental, hein. Emmental, c'est un mot qui est protégé en France et qui renvoie à ces gros fromages qui ont des trous, qui sont consommés largement râpés parce que c'est le fromage le plus produit. 240 000 tonnes environ qui sont produites. C'est le fromage le plus fabriqué en France.
On pourrait dire que c'est un peu le parmesan des Français.
Oui, clairement, parce qu'il s'invite dans la cuisine à tous les moments pour qu'il soit autant consommé. Alors, il est à 60% acheté râpé et il paraît que 50% des gens qui l'achètent entier le râpent chez eux. Donc,
on a déjà des... des auditeurs et des auditrices qui râlent.
Bah, la plupart des auditeurs nous écrivent pour nous dire, mais enfin, c'est quand même pas compliqué de râper son fromage soi-même.
C'est une question pas bête quand même.
Par ailleurs, oui, le geste de râper à la main dans la petite moulinette héritée de ma mamie est tellement jouissif, c'est ce que nous écrit Claude. On aime bien ce geste-là aussi.
Alors, soit on a que les meilleurs élèves, soit ils mentent.
Je pense que c'est ça. On a les premiers de la classe sur Inter.
Je pense. Mais alors, cette question, c'est vrai qu'a priori, on pourrait se dire, on achète un morceau de meule, un morceau d'emmental chez le fromager et on se le râpe à la maison. En réalité, c'est tellement utilisé qu'on ne va pas jeter la pierre à tous ces Français, moi je m'inclus dedans, hein, qui ont ces sachets de fromage râpé dans leur frigo.
Oui, clairement. Et de toute façon, il y a plus d'offres en fromage râpé dans les rayons de la grande distribution que d'emmental, soi-disant, cœur de meule.
Pierre Coulon, vous êtes allé faire, et ça vous adorez ça, ouais. Et ça fait plusieurs fois que vous faites l'exercice pour nous, vous êtes allé faire un tour dans les rayons frais de nos supermarchés. Alors, sur l'étiquette, on est d'accord que majoritairement, on trouve emmental.
Oui.
Ça veut dire que cette appellation est encadrée.
Alors, oui, carrément. Alors après, on va trouver de l'emmental. On va trouver de l'emmental IGP, parce que sur nos 240 000 tonnes, on a un petit 5 000 qui est produit au lait cru, soit en emmental de Savoie, soit en emmental Est Central ou Label Rouge.
Donc, l'emmental peut être aussi, on va dire, un fromage de terroir ou un fromage, en tout cas, qui est protégé par un signe de qualité.
Oui, par un IGP. Mais alors, c'est pas du tout le gros du marché. Le gros du marché, c'est des emmentals majoritairement produits par les géants laitiers dans la Somme et en Bretagne.
Ah, ça c'est moins drôle. Et on peut parler également en Suisse. Alors, on l'appelle pas emmental, mais pas loin.
On l'appelle emmentaler, c'est l'originel. Hein. Son nom emmental vient du nom Vallée de l'Emme, qui va nous donner le nom de ce fromage qui va être nommé au XVIIe siècle.
D'accord. Et là, pour le coup, c'est un fromage. Non, vous l'aimez pas trop, je crois, l'emmentaler.
Ah si, alors moi je l'aime au lait cru, très fondant, avec une texture un peu plus grasse que l'emmental français, qui est un poil plus sec.
Je suis passé Antoine voir Gerbel. Pierre il n'y a pas longtemps dans sa boutique, il m'a quand même avoué, j'ai mis du temps à comprendre le goût de l'emmental.
Oui, clairement. pourtant, on arrive
là,
à
vous parler de l'emmental tout venant.
L'emmental tout venant, parce que moi j'ai été nourri à ça depuis que j'ai 2 ans, je pense.
Comme tous les enfants de France, pratiquement.
Dès qu'on goûte un bout d'emmental, c'est très compliqué de faire de l'analyse sensorielle sur ce fromage, parce que ça a juste goût d'emmental, quoi, clairement.
Mais alors, on va le voir notamment dans une très belle recette, ça commence à sentir bon dans le studio 611 de la maison de la radio. C'est son pouvoir filant aussi qui est intéressant. Son pouvoir, sa faculté à gratiner et donc à dorer au-dessus de certains gratins.
Ouais.
Mais ça apporte aussi cette texture très particulière à beaucoup de préparations.
Alors, beaucoup de filant, évidemment. Ce goût emmental, c'est vrai que le filant, on l'a moins avec le parmesan qui a un côté un peu plus épice dans un plat, hein, très clairement. Après, il faut comprendre que les industriels mettent ce qu'il faut pour que ce soit filant aussi dans les plats.
Ah, ça, on va en parler, parce qu'alors, vous avez quand même levé un lièvre. Moi, je l'ignorais totalement. On va attendre 2 secondes, mais c'est assez stupéfiant, on peut le dire.
Ok, hein. D'accord.
Mais juste une question. L'appellation cœur de meule sur certains paquets d'emmental râpé.
Wow, souvent, c'est fake, hein, parce qu'en fait, l'emmental, aujourd'hui, est largement affiné sous vide. Donc, il n'a pas de croûte. Donc, tout est un gros cœur de meule. Mais bon, si les gens aiment le cœur de meule, c'est un peu dommage, parce que là où il est le plus intéressant, c'est à se rapprocher de la croûte. Pour les grosses pâtes persillées cuites, souvent, l'arôme est vraiment au plus proche de la croûte. Donc, quitte à le râper, autant râper vraiment le bord de la croûte.
Cet emmental industriel, ce sont de gros acteurs qui dominent le marché. Allez, oui. Balançons des noms.
Alors, balançons des noms, c'est toujours les mêmes, hein, donc ça c'est facile. On a le leader avec président, c'est le groupe Lactalis,
ouais.
Qui a également l'Herdamer. Alors l'Herdamer, c'est pas un emmental, mais il communique pas sur le côté emmental, il nous faut un fake suisse. et après, on va avoir Entremont avec l'emmental français. Et alors surtout, ce qui est drôle, il y a une petite battle entre les deux, mais qui finalement dénonce des choses un peu plus grave.
Voilà, et ben allez,
on y va. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la loi française, dans le décret fromage, on peut mettre un peu de fécule de pomme de terre jusqu'à 2% dans l'emmental, on appelle ça un antimotant.
De la patate dans le fromage.
Oui, alors moi quand j'ai commencé à regarder derrière, je me suis dit, pas con de vendre les patates au prix du fromage aux Français. Bah non, mais c'est valable, hein, parce que 2% de 240 000 tonnes, ça fait quand même un palanquier de fécule de pommes de terre. Et c'est vrai que techniquement, la fécule a un côté un peu asséchant, donc permet aux brins de ne pas s'amalgamer, parce que de toute façon, ils sont en train de crever dans un sachet pendant un mois.
C'est ça que ça veut dire antimotant.
Un antimotant, ouais.
C'est ça, techniquement, c'est un antimotant.
Mais ce qui est rigolo, c'est qu'à fouiller avec 2-3 sources qui m'aident un peu aussi à préparer les émissions, on s'est rendu compte que aujourd'hui, donc, président met de la fécule de pomme de terre, communique sur son sachet en disant pourquoi il met de la fécule de pomme de terre. Entremont nous fait un truc de fou avec l'emmental français fin et fondant. sans additifs, affinage traditionnel, coopérative d'éleveurs, bon, coopérative de milliers d'éleveurs, rien que de l'emmental râpé, pas de fécule. Et alors, moi, je pense aux gens qui lisent ça sur les sachets, qui se disent rien que de l'emmental râpé, pas de fécule.
Mais attendez, c'est surtout des géants laitiers qui se disputent, en fait, marketing
qui se
interposé.
Sur un truc que personne ne connaît, la version antimotante de la fécule. En fait, ce qui est intéressant sur la fécule, c'est qu'à en rajouter 2% sur les sachets, les gens améliorent leur Nutri-Score. Parce que ce Nutri-Score, qui était au départ quelque chose d'intéressant, aujourd'hui, le fait de mettre de la fécule de pomme de terre dilue le sel et dilue la matière grasse et permet de gagner une petite date. Donc, c'est-à-dire que les industriels à rajouter des patates dans le fromage, ce qu'on ne peut pas faire en tant que producteur, je suis producteur de camembert AOP de Normandie, le jour où je vais commencer à balancer de la farine dedans, moi je vais perdre l'appellation.
Mais on est d'accord que la réglementation autorise donc ces industriels à mettre de la pomme de terre dans les mentales. Ça reste
émental.
Et j'ai sous les yeux d'ailleurs ce paquet président. Il est précisé les Français, 200 grammes.
Oui, c'est sûrement vrai, oui.
Quand on retourne le paquet
en
sur
petit sous les ingrédients,
lait de vache pasteurisé, sel, ferment lactique, fécule de pomme de terre. La fécule de pomme de terre contribue à améliorer la qualité de votre emmental râpé. Ils s'en vantent, en fait. Hein. Ils s'en vantent, mais quand même pas jusqu'à communiquer sur la pomme de terre dans leur visuel d'emballage.
Là où Entremont attaque en disant rien que d'emmental, pas de fécule. Moi, j'ai trouvé assez ça drôle. Donc, après, on n'a pas besoin aujourd'hui. On peut aussi râper son emmental, clairement.
Et ça veut dire que le Nutri-Score de ce produit est meilleur que le Nutri-Score de votre fromage râpé si vous deviez en vendre.
Clairement.
C'est
les limites du Nutri-Score, ce qui est dommage. Parce que
qui ne fait pas la différence entre le bon gras et le mauvais gras. Un camembert, son Nutri-Score est désastreux alors qu'il s'agit, quand il est de Normandie, d'un vrai produit de notre terroir.
On sait qu'on ne vend pas des carottes râpées, que le fromage n'est pas là pour avoir un bon score. Et si on commence à le diluer avec des produits craqués, ça va vraiment perdre son intérêt.
La palme du produit le plus transformé revient, parce que vous nous avez aussi rapporté ça de vos petites emplettes dans nos supermarchés, à l'emmental râpé végétal. Attendez, rassurez-moi, ça ne peut pas s'appeler
l'emmental. Ça ne s'appelle pas emmental râpé végétal. La France est stricte là-dessus. Ça s'appelle râpé végétal avec effectivement une composition. Ce n'est pas déconnant aujourd'hui, cette aventure qui est autour du végétal et des fermentations.
C'est la version végane.
Le problème, c'est qu'à chaque fois que les industriels s'y mettent, ils nous font un produit ultra modifié, ultra craqué, ultra transformé. Et clairement, ça fond. Les arômes ne sont pas là. On voit des arômes artificiels dedans. C'est dommage.
Ouais, et il y a des réactions, c'est ça?
Oui, alors pas tellement là-dessus.
Elle me fait des grands signes.
Non, mais il y a une réaction amusante de Déo qui nous dit 20 minutes d'émission et le mot comté n'a pas encore été prononcé. Je n'achète que du râpé de comté et je peux en manger avec les doigts dans le sachet, debout, devant le frigo.
On va y venir, voilà. Car on va essayer de comprendre justement pourquoi on appelait ça gruyère, les mentales, d'où vient effectivement cette confusion, mais on y vient après ce petit point conso évidemment. Oui. Mais juste avant, pour montrer quand même que les mentales peut être utile, notamment comme. Je vais pas dire agent de texture, mais comme un fromage qui permet de faire filer une préparation.
Ouais.
Vous allez nous montrer ça dans un exemple de recette qui est d'ailleurs extraite de votre livre. Je rappelle vraiment le titre de votre livre, Le bon savoir du fromager. Si vous voulez vous cultiver, et notamment il y a plein de pages conso justement. Vous faites la différence entre gruyère et emmental dans votre livre.
Oui. On aborde
donc
tous
c'est
les
évidemment
sujets.
Une encyclopédie des fromages, mais ça traite évidemment de toutes ces questions consommation très intéressantes et c'est aux éditions First. Alors là vous êtes trompé d'émission. Il y a une boîte de Mondor, je comprends pas.
Il y a une boîte de Mondor. Parce que l'emmental, c'est cuisine du quotidien et donc c'est un repas de feignant là que j'ai fait. J'ai fait un Mondor hier et j'ai simplement fait un gratin avec des coquillettes cuites à l'eau. J'ai récupéré le fond du fromage qui restait dedans, je l'ai mélangé avec de la crème, du poivre et j'ai mis une grosse poignée d'emmental dedans pour amener du fil. Et du coup, je refais cuire dans la boîte du Mondor, donc je récupère un peu les arômes boisés du fromage et j'obtiens ce truc que j'ai toujours beaucoup aimé, ces gratins de coquillettes, parce que l'emmental, c'est ça, c'est aussi coquillettes, emmental et ketchup industriel. Et là, c'est une version un peu plus chouette avec une belle crème crue.
Oh là là,
des fils partout.
Ah, le test. Le test de la cuillère par Elvira. On vous confirme que ça fait des fils de téléphérique d'environ 2 km. Donc tout va bien. Et c'est gourmand, ça. Hein.
Ouais, c'est vraiment chouette. Et c'est une manière de redonner vie à son Mondor. Mais on est obligé de rajouter un petit fromage. Et là, c'était le clin d'œil à l'emmental ou au comté. Si on commence à se faire gonder, on peut aussi utiliser n'importe quelle pâte pressée cuite.
Un peu de crème fraîche, quand même.
Ah oui, beaucoup. Hein. Maintenant, je travaille la moitié du temps en Normandie. Donc,
Oui, puisque vous faites aussi du camembert là-bas, rappelons-le, du camembert de Normandie.
Et la crème aussi.
On ne sait pas vraiment quoi faire en général de ces fonds de Mondor quand il y a la croûte. Et bien là, en voilà une très belle façon de recycler. Petit commentaire de dégustation, chère Elvira.
Délicieux, régressif, ça file de partout, ça a plein de goût. Mais bon, il faut quand même aller courir un marathon derrière, quoi.
Oui, on est d'accord. Comment ça s'appelle cette recette, Pierre Coulon ?
Je fais des macaroni cheese dans sa boîte de Mondor, ça n'a pas de nom.
D'accord, un mac and cheese dans une boîte de Mondor.
Ouais, un gratin de coquillettes, quoi.
Ça vous va, un gratin de coquillettes. Et là, l'emmental peut être utile.
Ouais, pour ramener du fil et ramener un peu de goût, ça se marie bien aussi avec le Mont d'Or. Moi, j'aime bien le goût de l'emmental.
C'est parfait. Et on va comprendre le rapport avec la choucroute et le gruyère. Et on va le comprendre dans un instant. Mais on fait une petite pause liquide avec notre chroniqueur Antoine Gerbel qui relève un défi. Accorder notre verre avec les fromages râpés.
On va déguster sur France Inter.
Alors, pour commencer cette chronique, je voudrais rendre hommage à un nouveau, meilleur sommelier de France. François-Régis, vous avez reçu il y a quelques semaines Pascaline Le Pelletier.
Eh oui.
Cette fantastique sommelière qui est française, mais qui vit à New York, qui a eu le prix de meilleure sommelière française, donc l'année dernière, et aussi le fameux titre de MOF, de meilleur ouvrier de France en sommellerie.
Doublé historique, hein.
Doublé historique. Eh bien, il vient d'être égalé par un garçon extraordinaire qui s'appelle Xavier Tuzia. Très discret, sommelier reconnu par ses pairs, mais il est un peu dans son monde. Il est dans une très belle maison, puisqu'il est place de la Concorde, au Crillon, depuis maintenant, je crois, 8 ans. Et Xavier a une passion pour les accords mets et vins, et particulièrement pour les accords sur le saké. C'est un de nos plus grands spécialistes du saké. Alors j'ai appelé Xavier, je lui dis voilà, avec toute l'équipe dont on va déguster, on va parler emmental, gruyère, cheddar.
Il a dû faire la grimace
alors,
pour commencer.
Je n'ai pas attendu vraiment 10 secondes pour qu'il enchaîne tout de suite. C'est quand même une machine de guerre très très bien faite. Alors il me dit tout de suite, alors avec l'emmental, j'ai envie de faire vibrer son côté neutre. On revient, légèrement acidulé, sur un vin pur et délicat. Il me dit, il ne faut pas chercher midi à 14h. Moi, je pense au chasse la Suisse.
Ah.
Donc voilà, vous allez retrouver sur le site de l'émission toutes ces adresses. Après, sur le gruyère, il enchaîne. On monte en intensité. Je reste dans la montagne et moi je pense à une roussette de Savoie et il nous cite un excellent producteur, le domaine Chevillard. Puis après sur le cheddar, il me dit voici le sud-ouest de l'Angleterre, ben moi j'ai vraiment une passion aussi pour le cidre et il nous conseille un cidre. Donc c'est très marrant, vous savez là, comment résonnent ces sommeliers, ces associations de terroirs. Moi je dis tout le temps, il faut se déplacer dans nos territoires pour comprendre après les choses très très simples. Et voilà, Xavier Tuzia, il faut vraiment le découvrir. Et surtout, il m'apprend quelque chose, il me dit, moi j'ai un truc, c'est que je mets un morceau de fromage dans ma bouche. Et je prends une gorgée en même temps, j'ai pas fini d'avaler mon fromage, une gorgée de vin ou d'un liquide, comme une sauce. Vous aromatisez en fin de compte votre fromage. Et c'est à ce moment-là que se passe vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il me dit, on fait sortir des notes d'épices avec ce fameux fendant suisse dont il me parlait, Chasselas. Vous allez voir quelque chose beaucoup moins neutre que vous imaginez. Alors, merci Xavier pour toutes ces pistes. Vous allez me dire, là, il ne m'a parlé que de blanc. Et là, je rebondis sur une question que j'ai posée à Pierre quand j'ai été le voir, parce qu'il vend du vin dans sa boutique. Je lui ai posé un petit peu quelles étaient un peu les pistes qu'il donnait. Et je lui dis, la question toujours qu'on pose sur les accords fromage et vin, blanc ou rouge. Et alors il m'a donné une très bonne phrase, il m'a dit, le blanc pour la précision, le rouge pour la convivialité.
Pas mal, ouais. Enfin, à condition que le rouge n'ait pas une structure trop tannique non plus.
Alors, c'était le débat qu'on avait, c'est juste que moi, les gens prennent beaucoup de fromage chez moi pour l'apéro, mais ils mettent plein de choses sur la table. Et alors, accorder un plateau de fromage avec du tarama, des tomates cerises, une terrine et tout, il y a un moment, il faut se détendre et passer une bonne soirée.
Et puis, il faut être conciliant là, pour le coup, parce qu'il
faut arrêter
les accords, un avec le tarama, l'autre.
Voilà. Et donc, on peut faire des accords très précis avec le rouge ou avec le blanc, mais il faut aussi savoir se détendre et simplement passer une bonne soirée.
Mais vous êtes d'accord, Antoine, c'est bien de temps en temps de jouer un peu le gentil des accords. C'est comme dans un concert de musique, parfois il y a la note de guitare qui part de travers, on aime ça.
Mais moi je dis tout le temps, camembert et vin rouge, si le camembert est excellent, si le vin rouge est excellent, la fête est là. Donc bien dit bien. Mais après les précisions, c'est vrai qu'il y a des fromages aujourd'hui qui sont quand même de très grande précision. Alors, moi je suis revenu avec deux bouteilles, je vous ai posé dans vos verres, toujours en suivant cette idée. Alors sur un vin blanc, vous avez le vin le plus clair, c'est un Bourgogne aligoté. Donc Bourgogne aligoté, vous savez, c'était le parent pauvre des vins blancs de Bourgogne pendant très longtemps. Avec une destination pitoyable qui était le Kir.
Oh, c'est bon ça.
Et aujourd'hui, comme malheureusement tous les grands crus de Bourgogne, de Meursault, de Puigny, de Chassagne sont totalement inabordables pour nous, les vignerons retravaillent sur la ligotée et surtout sur des très vieilles vignes d'aligotée. Ce que vous avez dans votre verre, c'est une vigne de 45 arts, c'est pas très grand, c'est sur la petite commune, très jolie commune, une combe de la côte de Beaune, s'appelle Saint-Romain, et c'est une vigne de 1934. Donc petit rendement et avec la particularité d'être macéré. Donc les raisins, plutôt de les presser directement, on laisse les raisins en cuve et on va chercher des notes salées. Moi, c'est pour ça que je trouve l'accord avec notamment les mentales assez intéressant. Ça donne une touche un petit peu salée. Et c'est signé par deux jeunes vignerons, Pierre et Louis Trappé, qui sont les fils de leur père, le grand domaine Trappé à Gevrey-Chambertin.
Il y a de la matière, de la richesse et en même temps, il y a cette épine dorsale de fraîcheur.
Voilà, c'est un égoutté qui a un climat, vous savez, une origine, comme on dit en Bourgogne, s'appelle Sous-Châtelet. Et voilà, j'étais un grand coup de cœur. Et puis, la piste du cidre, elle me plaît énormément. Et j'ai rencontré cette semaine un jeune producteur complètement dingue. Il vient de signer sa toute première vinification, ça s'appelle Maison Calder. Alors, Calder, c'est son surnom. Il est moitié ukrainien, moitié russe. Il a fait un diplôme d'œnologie à Bordeaux. Il a fait l'école Ferrandi. Il a travaillé dans plein de maisons autour du vin. Il pensait devenir vigneron, et puis c'était hors de la portée de sa bourse. Et il s'est penché se promenait en Normandie. Il a trouvé 11 hectares qui étaient à vendre, quelqu'un qui partait à la retraite. Il signe goûter, François Régis, ce cidre qui est bon. Pour moi incroyablement mûr. C'est-à-dire c'est réussir comme dans le raisin, attendre cette maturité très très longue. Et alors c'est un bonbon. Et sur le fromage, là aussi c'est quand même très intéressant parce que sur le cheddar, on va en parler, ça amène quelque chose, un fromage un peu plus fort. Ça nous amène vraiment ça nous déplace encore sur une autre dimension. Il s'appelle Alexandre Sidorenko. Il n'a pas encore de site internet. C'est vraiment une découverte France Inter. Il fait un poiré puisqu'il est à la frontière mayenne. Il est dans le sud Normandie, nord mayenne. Donc il est dans l'aire de Domfront et son poiré est complètement dingue. Et
alors son cidre extra brut là, c'est une splendeur. Voilà. On trouve ça où ?
Alors, j'ai mis les coordonnées il va commencer à être distribué en cave. Regardez ces étiquettes, comme elles sont belles.
Graphique.
Derrière, tout est très très bien expliqué. Voilà, c'est Déméter. Voilà, commencer si haut et si bien, si jeune. Bravo.
Rappelez-nous, Déméter, Antoine Gerbel.
Une certification en biodynamie.
C'est ça. Eh ben, un immense merci pour ces deux coups de cœur, dont on retrouve les références sur franceinter.fr à la page On va déguster. Venons-en évidemment à cette fameuse confusion. On a commencé par l'emmental. On a compris que l'extrême majorité des fromages râpés que l'on achetait en supermarché, c'était bien de l'emmental. Mais alors, pourquoi vos petites mamies qui viennent notamment à la laiterie de Paris, et pourquoi même, je dirais un peu monsieur tout le monde, appelle ça du gruyère. D'où vient la confusion ?
Alors, au début, tout était gruyère. En fait, même avant, tout était vachelin. Ça voulait dire gros fromage de vache, en opposition aux vacherins, qui étaient les petits fromages de vache.
Vachelin contre vacherin.
Voilà.
Vachelin, gros fromage.
Exactement. Et alors, par la suite, ça va prendre le mot gruyère. Gruyère, alors on a bien ce fromage suisse avec le village ancien qui s'appelle Gruyère, et donc qui va être cité dès le XVIIe siècle. Et on va voir arriver, partout le long de la chaîne alpine, des gruyères. Donc, gruyère d'abondance, gruyère de Franche-Comté, gruyère de Beaufort. D'ailleurs, Brillat-Savarin disait que le Beaufort était le roi des Gruyère. Donc tout s'appelle Gruyère. Et il y a un combat, comme d'habitude, entre la Suisse et la France dès qu'il s'agit de fromage, pour savoir qui peut utiliser l'utilisation Gruyère, puis Emmental. Et en 51, on a l'accord de Stresa qui va trancher et qui va dire les deux pays peuvent l'utiliser. Et là, ce qui est drôle, c'est que les appellations françaises gomment le côté Gruyère, parce qu'en même temps, on a les frères Entremont qui ont commencé à fabriquer de manière massive en Bretagne du gruyère râpé, inventant l'emmental en sachet, profitant de ce lait écrémé que les Bretons jetaient et donnaient aux cochons quand ils fabriquaient du beurre, et créant un genre de success story qui sera racheté par Sodial par la suite. Et donc, les appellations vont s'appeler Comté, Abondance, Beaufort, pour se différencier.
Et on oublie les expressions gruyère de Comté, gruyère d'Abondance, gruyère de Beaufort, on les appelle tout simplement par leur région d'ailleurs.
Totalement, et les appellations qui ont décidé aussi de s'éloigner de ce gruyère à trous, vendu massivement, et considéré comme un peu cheap par rapport à ces beaux fromages au lait cru.
Parce qu'entre l'emmental français et le gruyère, alors on va parler là pour le coup du gruyère suisse, puisqu'on va voir que c'est un fromage de terroir protégé par une appellation d'origine protégée, il y a une différence notamment au niveau des trous.
Oui, alors le trou c'est lié à une bactérie qui s'appelle la bactérie propionique, et en fait cette bactérie, dès qu'on met le fromage en affinage un peu chaud, au-dessus de 20 degrés, elle s'emballe totalement et elle va produire des gaz et cet arôme qu'on appelle propio, qui est cet arôme d'emmental en fait, c'est l'arôme fruité des pâtes pressées cuites, donc un comté, vous le mettez en dessous de 18 degrés, pas de trous et des arômes assez subtils. Vous le mettez à 20 degrés, bim, ça gonfle et ça développe ses forts arômes d'emmental.
Donc l'emmental a des trous. D'ailleurs, ouais. Il paraît que les fabricants de fromage appellent ça des yeux.
Oui, des yeux, taille noisette, taille œil. Et effectivement, les autres fromages considèrent ça comme un défaut. Donc c'est vraiment une volonté de se différencier de ce fromage populaire. Il faut comprendre qu'à Paris, dans les années 60, les crémiers, ils avaient trois fromages. Et ils passaient des meules d'emmental entières qui s'appelaient gruyère, un peu de brie, un peu de roquefort, mais c'était le fromage le plus consommé, vendu dans des feuilles de papier.
Donc les trous, si j'ai bien compris, c'est le gaz dégagé par la fermentation du fromage.
Par la fermentation des bactéries.
Et on est d'accord qu'il n'y a pas normalement de trous dans ce fameux gruyère, puisque ce nom est protégé en Suisse, et c'est même le nom d'une région.
Alors oui, c'est le nom d'une région, il est protégé en France aussi. On a une IGP Gruyère, mais qu'on croise peu, parce qu'il y a quelques producteurs qualitatifs, mais souvent elle sert à valoriser les comtés qui n'ont pas réussi à avoir une assez bonne note pour s'appeler comté. Donc on les retrouve un peu en grande distrie, un peu dans les écoles, un peu dans les hostos. Voilà, Gruyère de France, c'est l'IGP, on pourrait en faire des belles choses.
On va dire qu'un Gruyère français IGP, c'est un mauvais comté AOP.
On a quelques bons producteurs quand même, faut pas que je me mette sur le dos, mais grosso modo c'est comme ça que les maisons d'affinage valorisent leurs mauvais comté. Par contre, en Suisse, Gruyère AOP, là on est sur un fromage qui est d'une élégance, d'une complexité aromatique, produit avec un très beau cahier des charges dans le Jura suisse. Hein, donc c'est vraiment la même histoire, c'est juste une histoire de frontière.
On peut dire que c'est le cousin helvète du comté, le Gruyère suisse.
Oui, mais alors là, on va se mettre du monde à dos aussi, ouais. François
Richoux. Il y a des prix très élevés chez le fromager d'ailleurs. Le Gruyère suisse, c'est chaud. Hein.
On appelle parfois Gruyère de Fribourg, enfin on l'appelle fromage de Fribourg.
Ouais, alors l'appellation, c'est vraiment Gruyère. On a son cousin Létiva qui est encore plus subtil et complexe parce qu'il est fabriqué au chaudron de bois. Il a des arômes fumés et torréfiés qui sont juste dingues. Il y a aussi de fraises, de framboises, de bananes. C'est un peu le Sauvignon des fromages. C'est ce qu'on se disait.
C'est ce qu'on disait, Antoine. Oui.
Alors, avec la recette qui est en train de couler, de filer, de gratiner dans nos assiettes, là, vous allez vous faire des amis du côté suisse, mais des ennemis du côté Savoie.
Totalement. Alors, c'est le Bertou. C'est le Bertou, mais revisité parce qu'on parlait gruyère. Donc, excusez-moi, Léo Savoyard, je suis très attaché à l'appellation Abondance, parce que le Bertou, c'était un plat qui a été créé à Abondance par des aubergistes. Et moi, j'adore ce fromage, cette recette qui est d'une simplicité. C'est juste des tranches de fromage fondues avec un peu d'ail, un peu de vin blanc et un peu de madère, ce vieux flacon qu'on a toujours à traîner dans un coin dont on ne sait pas quoi faire. Et alors là, j'ai fait une entorse. Alors en plus, c'est une spécialité traditionnelle garantie, donc c'est illégal ce qu'on vient de faire. On vient de faire un Bertou au gruyère suisse.
Mais on va se faire attaquer à cause de
vous. Mais oui, mais c'est l'occasion de rappeler que les pâtes pressées cuites, elles fondent et qu'elles ont ces arômes super et ce filon. On n'a pas besoin d'aller sur les mentales pour chercher le filon, quoi.
Là, la persistance.
Non, mais c'est capiteux, quoi.
On sort
ça fait limite tourner la tête, quoi.
Et la muscade, surtout, pareil, c'est un truc qu'on n'utilise jamais. C'est le poivre des montagnes. Et ça, c'est vrai qu'avec les pâtes pressées cuites, ça marche super bien. Et 10 minutes au four.
Donc rappelons que le Bertou est une recette traditionnelle du Chablais en Haute-Savoie, qu'on le fait traditionnellement avec
de l'abondance,
et que là vous avez remplacé l'abondance par du gruyère AOP suisse.
Voilà, totalement. C'était pour faire une petite entorse, mais avec de l'abondance, c'est génialissime aussi. C'est une très belle appellation, l'abondance.
Et en un mot, vous nous réexpliquez, donc vous faites fondre avec
simplement
du vin blanc,
un peu de muscade, un peu de vin blanc, un peu de madère, un peu d'ail.
Mais ça se passe dans une casserole ou ça se passe sur le grill du four?
Ça se passe au four et c'est la fondue la plus simple du monde. On sert ça avec des pommes de terre, charcuterie si on aime la viande, et en 10 minutes, on fait un super plat.
Voilà, oh bah ça je vous le confirme, hein, c'est même étourdissant tellement c'est bon. Et sur avec le petit blanc que nous a apporté
le petit,
le Bourgogne,
voyons,
le grand blanc, le grand, on vous a pas demandé de prix d'ailleurs,
le
de
grand
bouteille.
Mais bon, alors le cidre, et on va le retrouver à moins de 15 euros.
D'accord.
Donc, chez les cavistes, hein, quand même. Quelqu'un qui se lance, hein, vous savez, il faut quand même avoir conscience de ça. Et la ligotée, je crois qu'on sera en dessous de 30 euros.
Mais quel bon, ça c'est le prix des Bourgognes malheureusement.
C'est le prix des Bourgognes. On peut faire une émission dessus.
Oui, j'ai absolument. Des arguments. On va pas se priver d'ailleurs. On la fera. Dans un instant, on va évoquer le cheddar. Le cheddar, avec l'accent, ça donne quoi bien?
Moi, cheddar, c'est pas mal, hein. On n'est pas obligé de trop de forcer le trait non plus. Mais...
Vous nous avez préparé une super belle recette où il y en a un peu, mais alors on maintient l'énigme, évidemment, ça sent très bon et ça toast dans le plateau, sur le plateau dont on va déguster. Il y aura également Pierre Coulon qui va nous préparer un certain...
Welsh.
Lapin gallois. Ah ouais, vous avez déjà vendu la mèche.
Et oui, désolé, je me lance sur le Welsh.
C'est ça, et ben ça, c'est juste après notre petite pause musicale.
Don't get emotional, that ain't like you. Yesterday's still leaking through the roof. But that's nothing new. I know I promised this is what I wouldn't do, but somehow giving it the old romantic fool.
seems to better suit the mood. So if you wanna walk me to the car, you ought to know I'll have a heavy heart. So can we please be absolutely sure that there's a mirror ball? You're getting cynical and that won't do. I'd throw the rose tint back on the exploded view. Darling, if I were you, and how's that insatiable appetite for the moment when you look them in the eye and say, baby, it's been nice. So do you wanna walk me to the car? I'm sure to have a heavy heart. So can we please be absolutely sure that there's a
Le nouveau titre d'Arctic Monkeys, There Better Be a Mirror Ball. Un certain fromage anglo-saxon s'invite à la fête. Sunday, cheesy Sunday, elle est faite.
On va déguster. Sur France Inter.
Elvira Masson était très détendue devant son micro, en train de relayer les questions d'auditeurs à notre ami Pierre Coulon. Il y a quelques auditeurs et auditrices qui réagissent.
Mais partout dans nos régions et qui défendent évidemment les fromages de leur région.
Oui.
Jean-Claude Fabi Guéraud nous écrit « Je suis auvergnat d'origine, j'utilise du Cantal entre deux au lait cru AOP ou du Cantal vieux affiné 18 mois pour faire du fromage râpé. »
Qu'est-ce qu'il en pense, le fromager ?
Alors évidemment, dès qu'un fromage est un peu, contient peu d'humidité, ce sont tous les fromages fondent. Avec le Cantal, on fait des super recettes. On fait le retortilla, hein, on arrive à faire des choses qui sont très filantes. Il n'y a pas de problème pour utiliser n'importe quelle pâte pressée non cuite ou cuite.
D'autres questions, Elvira ?
Et en Savoie, Olivier nous fait part de son amour pour le gruyère.
De son désarroi de voir du gruyère suisse dans le Berthoud.
De son amour pour le gruyère des Bauges, ou gras des Bauges, appelé également Margeriaz.
On le croit, c'est une production assez confidentielle, assez discrète, effectivement, qui est dans le massif magnifique des Bauges. Petite pâte pressée cuite, souvent produite à la ferme, c'est chouette ça aussi. Et ça fond aussi très bien.
Le monde des gruyères, entre guillemets, est très vaste, même si on ne peut plus les appeler gruyères, mais on a compris à quoi faisait référence cette appellation un peu désuète. Hein.
Oui, totalement. Après, ça permet de valoriser aussi des petites productions hors appellation. Hein.
On va passer à un fromage qui commence vraiment à concurrencer les mentales en France, qui est peut-être bien le plus fabriqué au monde. On l'a longtemps moqué parce que c'était un peu le fromage en plastique orange des mauvais burgers. Tout ça, on appelle ce fromage
le cheddar.
Avec l'accent.
Cheddar.
Alors le cheddar, d'abord, comment expliquer son expansion mondiale au point de venir en France s'incruster dans les sachets de fromage râpé au rayon frais des supermarchés?
Ah bah c'est l'histoire d'un fromage qui va naître au XIIIe siècle dans le sud-ouest de l'Angleterre, pas loin d'une ville qui s'appelle Cheddar. Et en fait, en Angleterre, on a les territorials qui prennent le nom des villes à côté desquelles ils sont produits, comme en France, comme Stilton à Stilton, Cheddar à Cheddar. Et en fait, il va se diffuser largement avec la conquête des États-Unis, où très rapidement, on va commencer à fabriquer ce cheddar. Et aujourd'hui, c'est le premier fromage fabriqué au monde. partout dans le monde. Les industriels français le fabriquent en France, même Lactalis, il y a Galbani en fabrique en Italie, c'est ça qui est assez drôle. Et alors c'est vendu en France, alors largement derrière les tostinettes. Il faut savoir qu'on a des très beaux cheddar fabriqués en Angleterre, et un renouveau aussi de producteurs et de productrices françaises qui se mettent à faire des cheddar fermiers qui sont juste des petites bombes. C'est un fromage qui est rigolo à fabriquer et qui est assez inspirant.
Mais donc, le paradoxe, alors, c'est que c'est le fromage le plus industriel au monde, on peut le faire partout, vous l'avez dit, par un géant laitier français en Italie, et en même temps, ce peut être encore un fromage de terroir.
Ah bah, très clairement, quand on regarde, il y a même une PDO, hein, une appellation, avec certaines maisons comme Montgomery, comme Kins, qui nous font des cheddar magnifiques, affinés un an et demi. Le cheddar
qu'on a vu apparaître d'ailleurs hein, dans les fromageries, notamment parisiennes,
donc, ouais,
c'était la grande mode des fromages anglais.
Depuis le Brexit, parce que les cours ont explosé, mais l'île de Mulle, c'est un des meilleurs cheddar qui est fabriqué en Écosse, et après, bah, effectivement, le cheddar en France, c'est avant tout de la tostinette, mais alors aussi du râpé maintenant, en petit sachet orange.
Et ce que vous appelez tostinette, ce sont ces carrés orange.
Ouais, avec lesquels
on fait
les mauvais burgers.
De fromage,
dans lesquels il y a 7% de fromage, et essentiellement des matières laitières, et surtout ces fameux sels de fonte qui vont faire virer au rouge tous les compteurs Yuka, les phosphates qui permettent de bien amalgamer et la flotte et le fromage pour avoir plus de rendement. C'est l'univers des fromages fondus, on pourrait y rester dessus pendant
pour
2 heures.
Pour imiter mon aîné dans le métier, c'est de la merde. C'est
ça. Ouais, clairement, parce qu'on est sur des produits qui sont très facilement remplaçables par une belle tranche de cheddar
dans le fromage. Énormément de plastique entre les lamelles,
en plus,
tout ça. Donc écologiquement, c'est une catastrophe.
On ne vous parle pas du bilan carbone de ces fromages industriels.
Et qui existent aussi en mode émental, et c'est ça qui est drôle, c'est que l'émental râpé, c'est quand même le truc qu'ils font le plus rapidement. On le monte depuis, on arrive là à faire plein de recettes, et il y a des tostinettes à l'émental, comme si c'était compliqué de saupoudrer l'émental râpé qui est déjà râpé.
Pourquoi le cheddar, qu'il soit fermier, artisanal ou bien industriel, est souvent de couleur orange?
Alors, ils ne le sont pas tous. Hein. Souvent, les cheddar fermiers ne le sont pas. Après, la tradition de colorer des fromages, nous, ça va arriver en France avec Colbert, qui justement colore les mimolettes pour différencier des édames pendant une guerre contre la Hollande. Et on utilise souvent du rocou, de la carotène. Alors des fois, on utilise de la cochenille, c'est des petites bébêtes un peu séchées, un peu.
Oui. Ouais. Qui en général sont à l'origine du colorant rouge hein, dans l'alimentation industrielle.
Mais aujourd'hui, c'est une tradition, mais on peut trouver des ingrédients assez simples pour colorer un fromage.
Y a-t-il du cheddar dans la spécialité mystère que nous a concocté Elvire Amasson, qui nous a fait une petite piscine de fromage fondu. Et bien ça, on a la réponse des jeux tout de suite.
On va déguster. Sur France Inter.
Ouh.
C'est un lac. Pierre s'est fâché avec Léo Savoyard tout à l'heure. Moi, je pense que je vais me fâcher avec tout le monde parce que je file aux États-Unis avec cette recette, qui est donc une recette de grilled cheese. Grilled cheese, c'est l'appellation raccourcie de grilled cheese sandwich, c'est-à-dire sandwich grillé, en général du pain de mie blanc, tout ce qui est plus, j'allais dire traditionnel, tout ce qui est plus industriel, toasté avec du fromage dedans, un cheddar basique, le même qu'on vient d'évoquer, lequel fromage est fondu. C'est en quelque sorte la version américaine du croque-monsieur, mais sans jambon. De la même façon qu'on trouve ce dernier, le croque-monsieur, dans sa version basique à la carte d'à peu près tous les cafés, le grilled cheese se rencontre aux États-Unis dans les cafétérias et autres diners de bord de route. Depuis quelques années, l'affaire s'est exportée un peu partout, à commencer par la Grande-Bretagne, où vraiment le grilled cheese est devenu quelque chose qu'on mange dans la rue, dans les marchés, au point qu'on peut penser que c'est anglais. Que c'est
vous souvenez d'un délicieux grilled cheese qu'on avait dégusté ensemble à Borough Market à Londres?
Mais avec un super fromage qui n'était pas du tout du cheddar.
C'était de la raclette du Valais.
La raclette
du Valais.
Oui, c'était un grilled cheese.
Attendez, la raclette du Valais, elle vaut des points. Hein.
Ah bah, pour filer. Et même à Borough, il y a quelqu'un qui fabrique une raclette faite sous le métro et qui fait des grilled cheese géniaux avec une raclette 100%
de. On avait visité.
Borough Market, c'est vraiment, faut rappeler, un marché très gastronomique avec des produits extrêmement bien sélectionnés à Londres. Oui, là, c'était un grilled cheese suisse, quoi. et la version, l'affaire s'est gastronomisée en arrivant en France, où on en propose un peu partout des versions plus exigeantes côté produit. On était allé en croquer un ensemble, François-Régis, une version pratiquement imbattable qui était préparée par le chef Alessandro Candido du restaurant Candide.
Il est extraordinaire, à Belleville. Belleville, dans le 19e arrondissement.
Rue Sambre-et-Meuse. Alors j'ai bien suivi sa masterclass pour préparer le mien. Le pain doit avoir du caractère, plutôt du pain au levain naturel, avec une mie dense, mais c'est bien aussi s'il y a un peu d'alvéoles qui permettent au fromage de s'échapper. Alors moi, il s'est vraiment bien bien échappé le fromage. C'est qu'il y a plus de fromage à l'extérieur du grilled cheese qu'à l'intérieur.
Elle nous a fait un volcan de.
On n'est pas
avec
non plus
super fromagère.
Malgré toute l'aide de Fabrice Rivaud, voilà, on a fait plutôt un peu une catastrophe. Donc c'est bien s'il y a des alvéoles, ça permet au fromage de filer un petit peu, de s'échapper par les trous et de griller. Côté fromage, après quelques essais, moi j'oublie la mozzarella. Ce serait assez tentant de faire un grilled cheese à la mozzarella, mais ça relâche vraiment trop d'eau. On oublie aussi le comté qui est trop gras. Et j'ai trouvé à l'usage qu'un mélange de scamorza fumée et de cheddar fonctionnaient très bien.
Vous nous rappelez ce que c'est que la scamorza ?
Oui, c'est un fromage à pâte filée, qu'on peut trouver en version fumée, ou c'est ce que j'ai utilisé, ou non fumée. C'est un fromage italien. Alors, je ne sais pas quelle version vous coûtez, là, celui dont le cheddar s'est répandu en lac, ou celui qui se tient, mais qui est un peu froid.
Ça se tient, c'est bon.
On peut y ajouter, dans les versions plus gastronomiques qu'on trouve maintenant, on ne se contente pas du simple appareil pain et fromage. On ajoute des choses à l'intérieur, sinon ça n'aura pas d'intérêt. Cet été, j'en faisais un avec de l'aubergine confite. C'est plus la saison, donc là, on a tenté le coup avec du champignon.
Mais j'avais goûté votre version estivale, sans vous jeter des fleurs.
C'était pas mal.
C'était extraordinaire.
Ouais, c'est assez gourmand.
Il y avait même une petite note épicée.
Il y avait une petite note épicée aussi, il y avait l'oignon un petit peu confit, j'avais beaucoup, beaucoup poivré. Il faut beaucoup poivrer pour que ce soit pas écœurant. Je ne sais pas ce que Pierre pense du mélange scamorza fumée et cheddar. C'est un bon choix ?
Bah oui, carrément, Pierre, un bon pain. Moi, j'adore les green cheese parce que ça nous a mis du fun dans l'univers du croque-monsieur qui était un peu en train de... qui a pris trop de lead.
Un peu répétitif aussi.
Voilà. Et aujourd'hui, il y a plein de super sandwichs et ça, c'est vraiment super bon.
Alors, ce même grilled cheese que je vous ai préparé est en train d'être cuisiné dans les cuisines de l'hôtel Grand Amour à Paris, dans le 10e arrondissement. C'est le chef Romain Bréchignat qui s'y colle. Notre version à nous deux ressemble largement à celle-ci. Elle contient donc pas d'aubergines, des champignons de Paris revenus à la poêle. On les taille pas trop petits parce qu'on veut qu'il y ait un petit peu de mâche. On avait fait aussi un essai à la courge, mais c'était un peu plat. C'est un peu plat, puis la courge devient un peu trop fondante. On veut quand même que ce soit un peu chewy, si vous me passez l'expression en anglais.
Mâchouillant, c'est ça.
On veut que ce soit mâchouillant. Donc là, le champignon de Paris, c'est très bien. On a fait confire de l'ail. Je ne sais pas si vous sentez la petite note d'ail. On a tartiné très les deux tranches de pain dans leur face intérieure d'une gousse d'ail confite transformée en purée. On tartine ça au pinceau. Il y a également un petit peu de pickles d'oignon rouge pour donner un coup de fouet. Et puis on le bourre de scamorza et de cheddar. Un cheddar pas mature, hein. C'est un cheddar jaune, c'est pas la peine d'utiliser du cheddar mature pour ça, puis ça relâcherait aussi un peu trop de gras. Alors à la maison, de façon artisanale, on presse, on beurre les deux faces extérieures du pain, on le cuit à la poêle des deux côtés à feu bien chaud, et on presse avec ce qu'on a, une casserole remplie d'eau.
La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de ces, vous savez,
de ces presses
à panini.
Non. Mais avec le chef Romain de l'hôtel Grand Amour, qui est en train de le préparer à l'heure où je vous parle, donc je vais, dès la fin de l'émission, je file là-bas, on est en train d'en préparer une grosse palanquée, comme dirait Pierre. Lui, il le fait à la presse à panini. Et on va servir ses grilled cheese de midi, donc dans 5 minutes, à 18h, accompagné d'une bière délicieuse concoctée par mon acolyte Guilherme de Serval. Une bière super élégante qu'il a créée avec les bières de Belleville. Et une partie des bénéfices
bière,
de cette journée, elle est démente.
C'est pas pour faire la promo de mes copains, mais sa bière est dingue.
Elle est fine, elle est élégante.
Il a fait un assemblage de bières
magnifique.
Incroyable.
Avec les bières de Belleville, et une partie des bénéfices de cette journée ira à l'association Hello Ernest, qui fait de l'aide alimentaire, de la distribution de repas, et qui a notamment créé ce truc génial qui s'appelle le pour-manger. C'est-à-dire le fait qu'en payant un tout petit peu plus son repas, enfin c'est une participation du client et du restaurateur, on finance un repas ou un plat pour quelqu'un qui en a besoin, qui est en situation de précarité. Donc voilà, bravo à Hello Ernest, on les soutient comme on peut.
Une association formidable, dont on parle régulièrement d'ailleurs, et qui fait un travail solidaire et citoyen... De toute beauté.
Grill cheese et bière, Hôtel Grand Amour, 18 rue de la Fidélité,
ça se passe aujourd'hui.
Maintenant à 18h.
Et vous êtes très pressé d'y aller.
Je suis pressé comme moi.
Et vous allez presser vos sandwichs là-bas, on pourra discuter avec vous, on pourra vous voir.
Je serai un peu affairé, mais je serai ravi d'accueillir tout le monde et de discuter et de grignoter.
À l'Hôtel Grand Amour, Paris 10e, c'est juste à côté de la gare de l'Est. Un grand merci alors. Vous avez un peu vendu la mèche, on l'a dit, avec Welsh. Moi, je parlais de lapin gallois. Oui, c'est la traduction française de cette spécialité, cher Pierre.
C'était une blague des soldats gallois aux paysans du Nord.
Racontez-nous.
Sur un repas. Alors, un repas un peu qui cale, clairement, où on n'avait pas les moyens d'acheter de la viande. Donc, c'est simplement du cheddar. Donc, plus un mature, cette fois-ci, qui va être fondu.
Plus un.
Un cheddar mature. Un peu vieilli. Un fromage mature.
Mature.
Qui va être... vous me demandez de mettre l'accent anglais depuis tout à l'heure.
Cette émission se pratique en français. Je suis désolé, je vous demander une précision.
Okay. Fondu avec 3 cuillères à soupe de bière, 1 cuillère à soupe de moutarde. Et après, on va mettre au four une belle tranche de pain au levain. Avec une tranche de jambon. On gratine 10 minutes. On peut mettre dessus ou pas un œuf. Et on sert ça. C'est ce qu'on va manger. C'est un plat traditionnel du Nord. On peut manger avec des frites, histoire d'alléger un peu le mélange.
Et on se donne le droit de goûter, là.
Alors, il est en train de finir, on va aller chercher.
Non, vous ne bougez pas parce que j'ai des questions à vous poser, mais on va... Il y en a dans tous les sens, c'est une vraie ruche. Le studio 611 de la Maison de la Radio, ce dimanche matin. Une question d'Audrey de Montrouge.
Oui.
Répondez-lui, s'il vous plaît, cher Pierre. Quel fromage préconisez-vous pour faire un croque-monsieur? On s'y perd entre la scamorte sa fumée d'Elvira, l'emmental dont on parle, le comté, le gruyère. Vous, votre croque-monsieur, alors, il ressemble à quoi?
Le croque-monsieur, traditionnellement, c'est l'emmental. Après, on a tellement de diversité fromagère aujourd'hui que, et tellement de fromages qui fondent, qu'on peut vraiment jouer. Et là, c'est là où servent aussi la profession des crémières fromagers et des crémiers fromagers, de vous donner des conseils, parce qu'on peut utiliser des bleus, des pâtes pressées non cuites, de la raclette, tout fond.
J'ai essayé un fromage il y a peu de temps dans le Jura avec une fonte magnifique, j'y croyais pas, c'est le Bleu Gex.
Oui.
Il y a une fonte à la fois mousseuse et filante, crémeuse. Incroyable.
Ouais, un poil salé. On retrouve ça aussi sur le bleu du Vercors, qui est une belle appellation encore une fois. Et ça, c'est vraiment des fromages qui fondent super bien.
Antoine Gerbel, vous avez goûté le grilled cheese d'Elvira? Vous recommandez plutôt votre bourgogne à ligoter ou le cidre?
Alors, le cidre, pour ma part, et même j'étais sûr qu'Elvira allait parler de bière, vraiment, faut aller sur l'univers de la bière ou des pétillants naturels.
Oui.
Un petit peu sec, comme un chenin, en ce moment, il y a beaucoup d'endroits où on trouve des très beaux pétillants naturels. Et comme c'est assez riche et gras, voilà, ça passe très bien.
Et le Welsh Rabbit vient d'atterrir sous mon micro, on va se régaler. Je rappelle le titre de votre nouveau livre, Pierre, qui est beaucoup plébiscité, Le bon savoir du fromage chez First Edition. La semaine prochaine, nous sommes très heureux de dresser le couvert à Nantes pour assister à l'émission. Venez dès 10h30 à la salle Paul Fort de Nantes, en face du marché Talensac, entrée libre dans la limite des places disponibles. Et puis je profiterai de ma présence à Nantes pour une rencontre dédicace la veille, le samedi 3 décembre, à la librairie Coiffard de 16h à 18h autour de notre livre. On va déguster Paris aux éditions Marabout et Radio France. Un petit mot à ajouter?
Oui, sur tous les gens qui m'ont accompagné sur ce livre quand même. Anne-Claire Hérault, Justine Salot, Myriam Lay. C'était une belle équipe, mes éditeurs et mes éditrices. C'était un gros boulot. Et voilà, et j'en oublie.
Et ça donne un sacré bouquin qui devient direct une référence de la littérature sur le fromage. Bravo Pierre Coulon et à la prochaine pour une nouvelle émission. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.